Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
La première fois que je vis un tableau de Pierre Soulages, ce fut un choc, écrivait en 1958 Léopold Sédar Senghor. Je reçus, au creux de l'estomac, un coup qui me fit vaciller, comme le boxeur touché qui soudain s'abîme. C'est exactement l'impression que j'avais éprouvée à la première vue d'un masque d'âne. Ce n'est pas hasard. Les peintures de Soulages me rappellent toujours les sculptures, voire les peintures négro-africaines, ajoutait Senghor. C'est le même mépris de toute vaine élégance, la même évidence qui s'impose, la même saisie du spectateur à la racine de la vie. En 1965, sur France Culture, Pierre Soulages était l'invité d'Harold Portnoy dans son émission « Impromptu de vacances ». Volubile, généreux, il parlait avec passion de sa peinture, de sa gravure, de son art dans tous ses détails et ses aspects, de sa manière de travailler, de ses techniques, de ses outils, de son atelier de set. Il exposait ce qu'était sa propre conception de l'art et de l'artiste et disait au passage, avec force, sa détestation de toute reproduction des œuvres picturales, selon lui, impossible.
France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Pierre Soulages. Assistant, Jean-Marc Siafarikas.
Pierre Soulages, qu'évoque pour vous le mot vacances ?
Eh bien, vacances, pour moi, depuis l'âge de l'école, c'est la liberté. C'est la période de l'année où l'on fait ce que l'on veut, où l'on choisit ses occupations. Mais maintenant, pour moi, je choisis mes occupations aussi bien dans le reste de l'année que dans cette période des vacances. Je travaille aussi bien en vacances que les autres mois.
Mais vous prenez des vacances, c'est-à-dire il y a une époque où vous partez.
C'est-à-dire il y a une période où je quitte Paris, mais en réalité, c'est pour continuer ce que je fais à Paris, c'est-à-dire pour peindre. Je peins peut-être en vacances avec plus de liberté, plus de facilité, mais de toute façon, que ce soit dans l'année ou que ce soit en vacances, je n'ai pu travailler que par désœuvrement. Je ne me suis jamais décidé à travailler, à peindre, parce qu'il fallait ou parce qu'il aurait fallu que je le fasse. Je travaille toujours comme ça parce que je n'ai rien d'autre à faire et que ça me paraît la chose la plus importante.
Il y a un mot qui a éclaté lorsque je vous ai parlé de vacances. C'est le mot « liberté ». Tout de suite, vous avez associé « vacances » et « liberté ». J'ai l'impression que ce mot, vous l'auriez associé du reste avec beaucoup d'autres idées, en fait,
oui.
Liberté.
Oui, c'est vrai. Les vacances, c'est le moment où on est libre de faire ce que l'on a envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire le plus souvent, c'est de peindre.
Est-ce que vous avez l'impression que les gens, à l'heure actuelle, prennent réellement des vacances, enfin, se détendent, sont libres pendant leurs vacances ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression surtout qu'on leur met dans la tête l'idée de ce qu'ils doivent faire. Et j'ai bien l'impression que beaucoup de gens font du bateau, ou jouent au tennis, ou vont à la plage, parce que c'est comme ça que doivent se passer les vacances. Alors que, enfin, il me semble au fond que peu de gens choisissent vraiment. Parce que être libre, c'est pas. C'est d'abord choisir.
Et est-ce possible pour beaucoup de gens ?
En ce moment ? Bien, c'est possible dans une très faible mesure. Enfin, les gens ont 2-3 semaines de temps comme ça qu'on leur octroie tous les ans. Ça me paraît très peu.
Et puis tous à la même époque, au fond.
Et à la même époque, au même moment. Oui. C'est vrai.
Vous êtes à 7, je crois. Vous êtes
oui.
Un atelier
oui, moi,
à
je
7,
vais, hein. Moi, je vais à 7, mais je vais à 7 comme je pourrais aller ailleurs. Enfin, je vais là-bas surtout parce que j'ai trouvé un endroit qui m'a plu et parce que j'aime ce pays, parce que j'aime aussi les promenades dans l'arrière-pays, dans la Garrigue ou dans l'Écosse. Je vais là-bas pour ces raisons-là. Et je vais aussi là-bas parce que j'ai pu me construire un atelier bien protégé, où j'ai de longues heures devant moi pour travailler ou pour ne rien faire, ce qui me paraît aussi important que de travailler.
C'est ça.
Parce que le travail, à ce moment-là, s'insère dans l'emploi du temps d'une manière tout à fait naturelle.
Et le changement de lumière entre Paris et puis Sète, qui étonne, enfin, quand on n'a pas l'habitude, est-ce que c'est gênant pour
non,
vous?
Non, ça ne me dérange pas. De toute façon, vous savez, je travaille dans des ateliers bien clos, avec une lumière, évidemment, qui est très différente dans le midi qu'à Paris. Mais ce n'est pas une chose qui influe sur mon travail. D'autant qu'il m'arrive souvent de travailler la nuit. Si l'envie me prend à 10h du soir de commencer un tableau, eh bien, je le commence. Je remets ça en question, évidemment, à la lumière du jour, parce que les lumières qu'on a avec l'électricité sont des lumières pauvres. Mais ça ne me paraît pas un élément déterminant. La lumière n'est pas un élément déterminant dans mon travail.
Vous avez toujours besoin d'une toile près de vous, alors ?
Oh, oui.
Une, je dis une.
Une toile blanche, oui. Non, des tas de toiles des blanches. Toiles. C'est ça, d'ailleurs, l'agrément d'un grand atelier. On peut avoir 30, 40 toiles devant soi et on commence par le format choisi dans l'humeur du moment. C'est toujours comme ça que je travaille, que ce soit à Paris, que ce soit à Sète, d'ailleurs.
Je vois dans l'atelier où nous sommes, il y a des toiles de tout format. Elle fait combien, cette toile qui est en face de nous?
Oui, elle doit faire à peu près 3 mètres sur 2, enfin.
Et celle-ci?
Oh, encore plus, elle doit 4 mètres sur 2,50.
C'est ça, et alors là on a...
Et là, c'est des toutes petites, ouais. de 50 cm, enfin. Et quand j'arrive dans mon atelier, je ne sais absolument pas si je vais commencer une toile de ce format-là ou une toile immense. Je ne sais rien. J'arrive, je tourne en rond pendant quelques heures, et quelquefois je ressors sans avoir travaillé. Et puis, d'autres fois, je prends brusquement une toile de 4 mètres et je me jette là-dedans. Et alors, ça dure des jours, plusieurs jours, ou quelquefois seulement quelques heures.
Il n'y a pas d'habitude qui sont prises.
Non, il n'y a pas d'habitude. De toute façon, je ne fais pas de projet avant de commencer à travailler. Ce que je fais, qui m'apprend ce que je cherche. J'apprends ce que je cherche en peignant. Quand je commence une toile, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est une vague envie d'une grande toile qui me fait prendre plutôt un grand format qu'un petit. Mais rien n'est prévu à l'avance.
Ce n'est pas intellectuellement prévu?
Absolument pas.
Et est-ce qu'il vous arrive de peindre plusieurs toiles en même temps de formats différents?
Ça m'arrive, mais en général, les toiles que j'abandonne, lorsque je les abandonne, ou bien ce sont des toiles réussies, ou bien ce sont des toiles presque réussies, alors que je pourrais terminer après, ou bien alors ce sont des échecs. Et là, dans les toiles que vous pouvez voir, il y a un certain nombre de toiles qui sont de côté pour être détendues, déroulées et brûlées.
Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que vous venez de dire. Vous avez prononcé le mot « échec » et le mot « réussite » ouais. D'une façon nette.
Oui.
Comme si, pour vous, et peut-être est-ce ainsi, une toile est réussie ou bien elle n'est pas bonne, mais d'une façon nette. Est-ce que c'est net,
oui,
pour vous?
Eh bien, dans le moment, c'est toujours net. Mais là où commencent les difficultés, c'est 2 jours après. Quand on est devant ce que l'on croit avoir réussi, ce qui a été un moment heureux dans le travail, où la peinture même a apporté plus que ce que l'on espérait l'avoir apporté. Et 3 jours après ou 2 jours après, je me dis devant l'objet, devant la peinture, devant la toile, mais le jour où je l'ai peinte, est-ce que je n'ai pas été victime d'une illusion? Est-ce que ce jour-là, où je croyais que tout était bien, je n'étais pas simplement dans un état d'excitation et d'euphorie qui m'a fait perdre contact avec ce qu'est réellement ce tableau? Et c'est là que commence la difficulté. Mais alors les toiles, je les garde. Je ne les laisse jamais sortir tout de suite. J'ai besoin de toujours les revoir, même celles que je fais dans quelques heures. J'ai besoin de les revoir 10 fois, 20 fois. Et à ce moment-là, je commence à me faire une idée de ce qu'est le tableau. Et si un certain nombre de fois, je suis d'accord avec ce que j'ai fait, je l'abandonne, je le signe et il peut sortir.
Je voudrais savoir, sur quel plan se situe cet accord? Je veux dire, si je suis d'accord avec ce que j'ai fait, si ça m'a plu, si je trouve... C'est sur quel plan? Sur un plan sensible? Sur un plan intellectuel?
Ah, c'est uniquement la sensibilité qui joue dans ce cas-là. si le choc, l'émotion que j'ai en tant que spectateur, parce que évidemment mon rôle est très, très différent de celui du spectateur. Je suis toujours un spectateur compromis dans des intentions, et c'est pourquoi j'ai besoin d'oublier un peu les intentions que j'ai pu avoir quand j'ai travaillé, parce que j'ai besoin de retrouver une espèce de fraîcheur devant le tableau, fraîcheur que je n'ai jamais le jour où je le peins. J'ai besoin de retrouver une fraîcheur de spectateur, j'entends bien. Lorsque je me remets devant un tableau, je m'efforce d'oublier toutes les étapes par où il est passé, le jour où je l'ai fait, les états d'âme que j'ai pu avoir au moment où je le faisais. J'oublie tout ça et j'essaie de le voir comme si c'était un tableau d'un autre. Ce qui est d'ailleurs
impossible,
complètement faux et impossible.
Un autre par rapport au créateur.
Mais voilà, c'est ça. Et alors, si à plusieurs reprises, en essayant d'oublier totalement le tableau, je me laisse surprendre par lui et je mets la main dans cet engrenage qu'est un tableau, et si cet engrenage m'absorbe et m'intéresse, je me dis le tableau doit être bon.
Et il arrive un moment où vous abandonnez le tableau. Je veux dire, vous n'y remettez plus la main.
Alors, oui, oui. Alors, il arrive aussi parfois que je le retouche. Mais c'est quelquefois des retouches très légères, c'est quelquefois rien. Mais quelquefois, je redémarre là-dessus. C'est une retouche qui provoque beaucoup de choses. Je remets tout en question. Et finalement, j'arrive à faire un tableau qui n'a absolument rien de commun avec la première étape. Ce qui est d'ailleurs tout à fait contraire à la manière méthodique qu'avaient certains peintres à d'autres époques de travailler.
Et même encore à notre époque, du reste.
C'est possible, oui.
Mettez-vous longtemps pour faire un tableau?
Alors, c'est très variable. Il y a des tableaux sur lesquels je travaille pendant quelques heures, d'autres 10-12 heures d'affilée, d'ailleurs, d'autres que je revois, mais enfin, d'une manière générale, c'est assez rapide. Je veux dire, c'est toujours une affaire d'heures. Je me souviens d'avoir quelques tableaux que j'aime toujours d'ailleurs et sur lesquels j'ai travaillé à plusieurs reprises sur une période de 1 mois. Mais c'est quand même l'exception. En général, c'est toujours très rapide. Ça ne va jamais jusqu'à 20 minutes, c'est toujours assez rapide.
Est-ce que pour peindre, vous avez besoin d'une certaine forme physique?
Absolument, mais la forme physique, c'est très nécessaire. Enfin, c'est nécessaire d'abord parce que la peinture est un travail manuel. Et lorsqu'on travaille une toile de 4 mètres de long, il faut être en bonne santé. Il est préférable d'être en bonne santé. Enfin, je me sens en bonne forme physique lorsque j'oublie mon corps, lorsque je ne sais plus si les jambes me font mal parce que j'ai trop couru ou trop marché, lorsque tous ces problèmes-là sont oubliés. Mais en réalité, lorsqu'on est passionné par quelque chose, même si on est bien fatigué par une longue marche dans le Causse ou dans la Garrigue ou à travers Paris, on oublie tout ça. Et quand une chose devient très intéressante, quand le tableau commence à prendre ce tournant qui fait qu'il en deviendra un, et bien à ce moment-là, tout ça est oublié, même si on a un peu mal aux jambes, même si on est un peu courbaturé, ça n'a plus aucune importance.
C'est curieux parce qu'on frôle sans arrêt cette idée, le tableau qui va en devenir un. C'est assez curieux, enfin, de penser à cette réalité, enfin, qui est une réalité pas définissable. Enfin.
Oui. Une fois que le tableau est fini et que je le considère comme pouvant sortir, il s'organise comme une chose tout à fait au point. Il fonctionne. Et on ne peut rien y changer. Enfin, moi, je ne pourrais rien y changer. Tout me paraît là, implacablement au bon endroit, avec la bonne valeur, avec le bon rythme, avec l'espace qui me paraît s'accrocher d'une manière significative au rythme, à la couleur. Ça, c'est le tableau terminé. Mais quand je le peins, étant donné que je ne sais jamais ce que je vais faire quand je commence à travailler, il faut être toujours attentif à la découverte. Il faut à tout moment être aux aguets, savoir que telle chose que l'on faisait dans telle intention, eh bien, c'est peut-être autre chose qu'elle va apporter. Et cette autre chose-là est, 9 fois sur 10, beaucoup plus important, beaucoup plus capital que l'intention que l'on avait. Dans la mesure où elle dépasse l'intention, je crois qu'elle vous correspond plus profondément encore que l'intention elle-même.
C'est ça. Nous sommes limités par nos idées. C'est pas ça que vous
voulez. On est limité par nos idées, on est limité par nos intentions. Et moi, ce que je m'efforce de faire quand je travaille, c'est enfin de considérer les intentions comme une prison, comme des barreaux.
Essayer
comme,
de les dépasser.
Et c'est ça. C'est par une attention de tous les instants, une attention à ce qui se passe sur la toile et que l'on n'a pas prévu, que l'on y arrive. Enfin, que je pense y arriver.
Voulez-vous nous parler de vos outils de peintre? Est-ce qu'ils ont de l'importance pour vous?
Ah, je crois. Je crois que tous les outils ont de l'importance pour quelqu'un qui les emploie. Ça ne veut pas dire... Alors là, je prends cette précaution, parce que ça ne veut pas dire que si je n'avais pas les outils que je me suis fabriqués, je ne pourrais pas peindre. Je suis persuadé que si j'étais dans une prison et qu'il me reste un clou rouillé et un vieux mur, je ne continuerai pas à faire quelque chose avec le clou rouillé et le vieux mur. Mais je pense quand même que avec un clou rouillé, on ne fait pas la même chose qu'avec un pinceau qui a une forme particulière ou qu'avec les instruments que j'emploie, ces sortes de racloirs ou de couteaux qui me servent à étaler la couleur sur la toile. Le choix des outils, d'ailleurs, est déjà révélateur, comme tous les choix. Mais le choix commence aux outils. Parce qu'avant de commencer à peindre, si l'on prend une sarbacane, comme le faisaient les peintres de la préhistoire, on n'aura pas les mêmes formes. On n'explorera pas le même monde de formes que celui que l'on explorerait si l'on prenait un pinceau qui fait des touches carrées, par exemple. Dès le départ, il y a un choix. Et à partir du moment où il y a un choix, c'est là que commence l'art.
Vous fabriquez vos outils, certains de vos outils?
Certains de mes outils, oui.
Parce que,
oui, je fabrique, enfin j'utilise des pinceaux, de toutes sortes d'ailleurs, pas forcément les pinceaux que l'on
pour
vend.
Artiste
pour artistes peintres, j'utilise beaucoup les pinceaux de peintres en bâtiment, qui sont d'ailleurs des outils merveilleux, très, très adaptés à certaines choses très différentes de celles que l'on rencontre dans la peinture traditionnelle, et qui permettent d'explorer des possibilités différentes. Mais j'emploie toutes sortes de pinceaux par conséquent, mais j'emploie aussi des outils qui ne sont pas à l'origine faits pour la peinture, qui sont ou bien des couteaux à enduire de peintre en bâtiment qui permettent de donner une surface directement, ou bien alors des sortes de racloirs ou de morceaux de cuir qui me permettent d'étaler la couleur aussi sur la surface. Je me suis fait ces outils-là parce que j'ai toujours eu envie, lorsque je peignais, de la surface. Enfin, c'est assez difficile à exprimer, mais lorsque je pense, lorsque j'ai envie de voir sur la toile une surface jaune, par exemple, je la pense d'emblée comme une surface. Si je prends un pinceau et que je barbouille du jaune ou que j'étale du jaune...
Vous faites les contours.
Oui, non, y a pas seulement ça. Quand on prend un pinceau, au fond, on ajoute une série de traces peintes qui finissent par faire une surface. Mais, enfin, ça me fait un peu l'effet du tricot. La dame qui tricote ajoute toujours un point à un autre et chaque point ajouté à un autre point finit par faire un rectangle de laine. Eh bien, peindre une grande surface avec un pinceau, ça me fait un peu le même effet. Je ne sens pas la surface comme ça. La surface est une espèce de reconstitution est bâtie comme on bâtit un mur de briques. Alors que, non, ce n'est pas ça. Une surface, c'est une chose que l'on sent physiquement différemment. Et pour ces raisons-là, j'ai choisi des outils tels que ce que vous voyez là, qui sont de longues, une sorte de racloir, de longues lames de bois ou de cuir, qui me permettent, une fois chargées de couleurs, d'un seul geste, d'étaler une grande surface sans avoir à la reconstituer comme ça, brique après brique.
C'est cela, oui.
Oui.
Sur ce plan, également, vous parliez des contours.
Oui,
aussi.
Mais alors, là, le contour, évidemment, quand on a... Tout ça est très lié, au fond. Évidemment, quand on a à faire un carré de couleur, si on veut, par exemple, un carré ou un rectangle, faire un rectangle de couleur, si on veut peindre un rectangle de couleur, l'idée, la première idée qui s'impose à un peintre traditionnel, enfin, c'est de faire le contour, d'abord, du rectangle, ensuite de mettre la couleur à l'intérieur, quelquefois d'ailleurs d'en rester au contour. Mais si on veut par exemple un carré rouge, il semble qu'on puisse aussi le recouvrir, recouvrir l'espace limité par les quatre lignes de rouge. Mais souvent, les peintres qui sont de vrais peintres cherchent, modifient le contour en fonction de la couleur et modifient la matière en fonction du contour et de la couleur. Ils agissent séparément sur la forme, sur la surface, sur la matière et sur la couleur, de manière à ce que ces trois choses-là arrivent à faire quelque chose qui soit indissociable, qui est une espèce de cohérence. Moi, je n'ai jamais fait ça. Lorsque si j'avais à faire cette même forme-là, je procède différemment. Je prends un de ces couteaux ou une de ces lames de bois, je la charge de couleur et j'applique d'un seul geste la couleur sur la toile, ce qui me donne un rectangle de couleur, mais tout arrive à la fois. La couleur, la matière et la forme. Tout arrive dans le même geste, dans le même moment. Et dès le départ, il y a une espèce de vie physique de la couleur, de vie organique de la couleur, du contour et de la forme qui est là, comme ça. Et si la chose ne me va pas, si pour une raison ou pour une autre, ça ne correspond pas à la nécessité que je ressens, alors je recommence tout, j'efface tout. Et la couleur, et la forme, et le contour. Si vous voulez, dans le premier cas, on procède d'analyse en analyse, on superpose, on analyse le contour, on analyse la surface, on analyse la couleur, et des trois choses, on fait une synthèse. Là, dès le départ, c'est déjà une synthèse. C'est bon ou ce n'est pas bon. Si ce n'est pas bon, on efface, j'efface.
Et le choix de vos couleurs ?
Alors, le choix des couleurs, eh bien, souvent, sur la palette, sur la palette ou sur les tables, parce que je ne me sers pas de palette, j'utilise de grandes tables de marbre, comme vous voyez. Souvent même, je commence un tableau comme ça. J'ai un grand tableau, j'ai accroché une toile sur un mur parce que j'ai envie d'une grande toile, et je commence à prendre une couleur que j'étale. Je sors la couleur de mes tubes. Quelquefois, j'utilise des couleurs que j'ai broyées moi-même. Et d'ailleurs, ça, c'est très important, parce que dans le broyage même de la couleur vient une espèce d'envie de peindre. Et on ajoute un peu plus d'huile, on rend la couleur plus ou moins fluide. Le côté grumeleux de la couleur provoque ma sensibilité. Ça me donne envie de travailler. À ce moment-là, je suis devant la toile que j'ai choisie. Et je m'aperçois que c'est une toile qui a un format, par exemple, allongé, et que, avec cette couleur au départ, j'ai plutôt envie d'une forme beaucoup plus solide, beaucoup plus trapue, quelque chose de beaucoup plus fort. Alors j'enlève la toile, je vais en chercher une autre, et je commence. Et alors, tout ça peut paraître évidemment un peu ridicule, parce que dans le cours du travail, la couleur quelquefois disparaît. Enfin, la toile est là, elle reste.
Bien sûr.
Mais la couleur disparaît et modifiée. Mais enfin, je ne peux pas travailler autrement.
C'est ça.
Et c'est toujours comme ça que je procède.
On a beaucoup parlé de vos noirs, ces noirs,
oui,
que l'on retrouve avec,
oui,
la,
oui,
petit à petit la lumière qui,
oui,
est apparue.
Alors là, vous me parlez vraiment de la couleur.
Oui.
Lorsque, vous voyez comme c'est curieux d'ailleurs, lorsque vous m'avez parlé tout à l'heure de la couleur, j'ai pensé, moi, à la peinture. Oui. Parce que la couleur, ben, c'est pas quelque chose d'abstrait. J'ai pensé tout de suite à la matière, à l'huile, à la viscosité, au côté pâteux, au côté fluide de la chose. Et ça, je crois que
c'est
finalement assez significatif. C'est très physique.
Ah, oui. Oui.
Eh bien, oui.
Après, il y a la couleur.
Le noir, pour moi, aucune couleur n'existe pour moi indépendamment de sa fluidité, de sa transparence, de tout le reste au fond. Même, je dirais même de l'espace qui, à partir du moment où elle est sur la toile, se crée. Je ne pense pas. Au fond, quand on travaille, quand on prend de la couleur, on dit, bon, je prends du noir. Mais un noir d'encre de Chine, c'est tout à fait différent. Un noir d'encre de Chine avec toutes les variations, toutes les transparences, toute cette espèce de poésie, de la fluidité, de l'air même à travers la fluidité qui s'introduit dans l'encre de Chine, c'est tout à fait différent du même noir pris dans une matière épaisse et maçonnée. C'est un monde de sensibilité différent. Et pourtant, c'est toujours le même noir. Comme quoi, il est très difficile de parler des couleurs, parce que, au fond, on a envie de faire une symbolique des couleurs tout de suite.
Bien,
on a envie,
sûr,
de dire le noir, c'est la tristesse. Enfin, en Occident, c'est la tristesse. Pas partout. En Chine, c'est le blanc.
Mais c'est vrai.
On a tout de suite envie de faire une espèce de symbolique,
oui,
comme
mais
ça,
d'un
des
autre
couleurs.
Côté, on n'est pas surpris, mais ni étonné, mais enfin, vous nous avez habitués à des gammes de noirs, enfin des
tons. Ça, c'est vrai. Enfin, il ne faut pas. Là, j'essaie de rendre ce choix moins simpliste que ce qu'il pourrait paraître, mais c'est vrai. J'aime beaucoup le noir et je ne me souviens pas d'une période de ma vie où je n'ai pas utilisé ça. Même lorsque j'ai des enfants et que je faisais des dessins ou des petites peintures pour comme en font tous les enfants, le noir était là. Et alors pourquoi ? Eh bien, ça, c'est encore des questions que je me pose. Est-ce que c'est parce que c'est la couleur qui permet le plus grand contraste avec le blanc, c'est-à-dire finalement c'est la couleur qui est la plus liée à la lumière, dans la mesure où un noir contre un blanc, c'est tout ce qu'on peut faire de plus fort et de plus lumineux, puisque le noir, c'est une manière de faire valoir le clair, ou bien est-ce pour d'autres raisons, je ne sais pas. Mais je me souviens très bien, même voyez, quand j'étais enfant, les arbres que je voyais l'hiver, sous la pluie, cette couleur noire, cette écorce luisante, c'était une chose qui me bouleversait. Pourquoi ? Eh bien, ça, je ne sais pas. Et c'est une chose, en tout cas, qui me touche toujours.
Et l'apparition derrière ce noir de couleur ?
Oui, bien sûr. Mais le noir modifie, comme je vous le disais, le fond sur lequel il est peint, et ça le rend toujours plus lumineux. Mais c'est aussi, à travers les noirs différents, une manière de suggérer la couleur. Et là, alors, je rentre peut-être dans quelque chose qui fait partie de ma peinture, de la poétique de ma peinture, si vous voulez, puisque tous les peintres en ont une, bien sûr. Mais je pense que lorsque un noir est légèrement chaud ou légèrement froid, on a une idée du bleu, par exemple, lorsque le noir se refroidit. Et on a une émotion devant cette chose-là totalement différente que celle que l'on pourrait avoir devant un bleu vraiment présent, vraiment nommé. Un bleu sorti d'un tube de couleur bleue, ou même dégradé. Je pense que c'est tout à fait différent. Lorsque je suis devant un bleu très violent, la sensation est très forte. Et je préfère me situer à un autre niveau que celui de la sensation. La couleur que j'imagine me paraît avoir beaucoup plus de pouvoir poétique en ce qui me concerne, et en ce qui concerne ma peinture, que la couleur qui est là, nommée, jetée au visage. Il m'arrive d'utiliser des couleurs violentes, mais c'est dans un autre sens. Là, vous me parlez du noir, et de ces noirs différents, de ces noirs chauds, froids. Lorsque je les emploie, j'éprouve une certaine délectation même à voir arriver, à voir surgir dans ce noir une couleur à peine nommée, et je me sens transporté dans un monde de sensibilité totalement différent que si j'employais directement la couleur suggérée d'une manière violente.
Je vais revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Tout à l'heure, vous avez dit, si je n'avais plus d'atelier, si j'étais en prison. Et alors là, vous avez cité deux objets. Vous avez dit, si j'avais un clou rouillé. Et ensuite, vous avez dit, si j'avais un vieux mur. Parlez-nous donc de l'objet.
Oui, mais enfin, le vieux clou rouillé, c'est ce qu'on a plutôt... Enfin, ce qu'on a des chances de rencontrer dans une prison.
Oui.
Comme un vieux mur, enfin, ça c'est... C'est presque un cliché, vous comprenez, les murs humides et décrépits des cachots.
Et d'un autre côté, à propos de votre peinture, on a...
Mais je dois dire que je les aime, c'est vrai. Je préfère la rouille à la chose neuve, au clou qui sort de chez le quincailler. Je préfère le vieux mur au mur blanc de plâtre. Oui, je me suis beaucoup demandé pourquoi j'aimais ça. Et lorsque j'ai fait de la gravure, par exemple... La plaque de cuivre, la planche que l'on prend avant de graver, c'est toujours une lame extrêmement propre, polie. C'est une véritable pièce de mécanique. Ça m'a toujours horrifié. Et j'ai toujours eu envie, dès le début, de mordre cette surface à l'acide pour qu'elle devienne quelque chose qui me touche déjà, que je puisse travailler dessus, que ça puisse être, au fond, comme le vieux mur.
C'est ça.
Il y a déjà un élément vivant, une espèce de vie de la matière qui se trouve dans le vieux mur et que je recrée avec l'acide sur le cuivre. C'est une chose qui me paraît tout de suite, dès qu'elle commence à vivre comme ça, qui me paraît fraternelle, qui me paraît agréable, avec laquelle il me semble que je peux commencer à dialoguer. Je ne peux pas dialoguer avec un mur blanc absolument uni ou avec une plaque de cuivre mécanique. Mais à partir du moment où la plaque commence à être corrodée, alors là, il y a quelque chose qui me touche. Il y a l'imagination qui est provoquée. Et il y a aussi cet élément physique de la vie, de la matière, qui me paraît fraternel et avec lequel j'ai envie de collaborer.
Il y a deux façons, au fond, d'avoir cette sorte d'objet. D'abord, travailler les objets vous-même, comme la plaque de gravure, par exemple. Puis alors, aussi, pour d'autres objets, simplement le temps, dans l'exemple que...
Mais dans la... Oui, je m'excuse de vous interrompre, mais dans la plaque de gravure, je ne travaille pas la plaque moi-même, c'est l'acide. Ouais. C'est l'acide qui ronge la plaque. Parce que je grave d'une manière très peu traditionnelle. Je ne prends pas, comme traditionnellement le fait, du cuivre à eau forte recouvert d'un vernis que l'on découvre d'une manière extrêmement préméditée. Pas du tout. Je plonge mon cuivre dans l'acide. Et l'acide commence son travail de corrosion au hasard. Mais ce qui se passe là, c'est quelque chose quand même d'assez comparable à ce qui se passe sur les vieux murs. Seulement, alors qu'un mur se dégrade dans plusieurs dizaines d'années, ou plus ou moins longtemps, mais enfin, il faut des années pour dégrader un mur. Ou même, si j'abandonnais cette planche de cuivre dans la nature, comme ça, il faudrait peut-être quelques siècles pour qu'elle soit corrodée par l'atmosphère. Mais lorsque je la mets dans l'acide, c'est pareil. Seulement, l'acide fait en 20 minutes ce que les siècles auraient fait.
Est-ce que ça vous travaille, cette idée du temps ?
Oui. Enfin, c'est une chose dont j'ai conscience. Je ne peux pas dire que ça me préoccupe d'une manière consciente comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'empreinte du temps dans les choses. Quand nous parlons de ce morceau de cuivre que je grave, c'est au fond la marque du temps qui se lie à travers la corrosion. Ça, c'est un élément qui me touche. Enfin, ce temps piégé par les matières. Mais ce n'est pas seulement ce temps-là qui se trouve dans ma peinture. Enfin, je ne crois pas que dans ma peinture, ce soit la préoccupation majeure. Lorsque je peins, il est certain que dans l'expérience poétique qu'est un tableau en train de se faire, le temps intervient comme l'espace, comme tous ces éléments qui sont inséparables de toute expérience humaine. Mais il intervient sous une autre forme. Il y a une sorte de durée. Lorsque l'on trace, par exemple, une ligne, c'est d'ailleurs une préoccupation qui était à mes débuts de peintre. Lorsque je traçais une ligne sur la toile, j'étais même gêné par la durée qui se lisait à travers cette ligne. Vous savez, lorsque on voit un trait qui se déroule sur une peinture, on suit cette ligne-là avec les yeux et dans ce mouvement, n'est-ce pas, il y a une durée. Et d'ailleurs, cette durée me dérangeait. J'y voyais là quelque chose qui était un peu trop plat, un peu trop littéral, qui manquait d'épaisseur. Enfin, et puis, ça me gênait aussi, comme l'anecdote me gêne souvent. Lorsque je voyais cette ligne-là, mes yeux suivaient la ligne et reconstituaient à travers la ligne le mouvement de ma main. Le mouvement de ma main, dans le temps, avec sa durée. Et là, ça me dérangeait, parce que je cessais de regarder le tableau qui était devant mes yeux. Et j'étais transporté au moment où je l'avais peint. Et de cette anecdote figurative, je figurais finalement un mouvement comme on peut figurer une pomme ou un compotier, je tombais dans une autre anecdote qui me gênait bien davantage, qui était une anecdote romantique. À tel moment, ma main tremblait. C'était d'émotion. À tel autre moment, j'étais dans tel autre état d'âme. Et ça me paraissait ridicule. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai infléchi ma démarche. Dans un autre sens, je me suis aperçu, j'ai cassé cette continuité de la ligne, j'ai voulu juxtaposer des choses, rendre impossible un sens de parcours pour les yeux, laisser la liberté aux yeux du spectateur d'évoluer dans la toile sans les guider comme les guide une ligne qu'il doit suivre. En faisant cela, je me suis aperçu que le temps changeait, le temps n'était plus là comme durée, comme succession, mais était donné d'un seul coup, d'une manière abrupte, comme ça. Et ça me touchait bien davantage. Je ne veux pas dire que les tableaux qui sont faits avec des lignes qui se déroulent dans le temps ne me touchent pas. Bon, pas plus que la peinture de Chardin, qui est un peintre très figuratif, me touche. Et beaucoup de peintures figuratives me touchent. Mais je sentais dans cette manière d'être avec le temps quelque chose qui me convenait plus profondément.
Quels sont pour vous les rapports entre la création et la nature ?
Les rapports qu'il y a entre une peinture abstraite et le monde dans lequel elle naît, elle est faite, sont des rapports tout à fait différents de ceux d'une peinture figurative avec la nature. Dans une peinture figurative, il y a une référence à un certain nombre d'objets précis que l'on reconnaît. Dans une peinture comme celle que je fais, on n'en reconnaît pas. Dans une peinture figurative, il y a un dialogue qui se crée entre les objets représentés et puis la manière dont le peintre les a représentés. Les couleurs, les rythmes, les surfaces, les oppositions de valeurs, l'espace du tableau et celui que l'on imagine à travers ces formes que l'on a sous les yeux. Ça, c'est la manière de fonctionner d'une peinture figurative. Je ne pense pas qu'une peinture abstraite fonctionne de la même manière. Dans une peinture abstraite, le monde n'est pas regardé dans un de ses aspects. Enfin, quand un spectateur regarde une peinture abstraite, il y a un dialogue qui se crée, si la peinture l'intrigue, l'intéresse ou l'accroche, entre lui et la peinture. Et dans ce dialogue, il y a toute l'expérience qu'il a du monde qui se confronte avec cette proposition qu'est la peinture. Et le monde n'est plus figuré dans la toile, mais il est toujours présent. Il est peut-être même plus présent, il est présent sur un autre mode que dans la peinture figurative. Parce que quand le spectateur regarde une peinture abstraite, il dialogue, je vous disais. Mais dans ce dialogue, c'est toute son expérience du monde qui intervient. Et finalement, le monde n'est plus regardé dans un de ses aspects sur la toile, il est vécu. Enfin, cette peinture abstraite que beaucoup pensent coupée du monde, coupée de la réalité, est concernée par la réalité d'une manière beaucoup plus profonde que la peinture figurative. Parce que finalement, on pourrait même dire, ça a l'air d'un paradoxe, mais je ne pense pas que ça en soit un, que c'est une peinture plus réaliste, si tant est que la peinture puisse être réaliste, que la peinture figurative. Le fait qu'on reconnaisse un morceau de pain dans une peinture figurative ne prouve pas que la peinture soit réaliste. Parce que quand on rêve si on a faim par exemple, et qu'on rêve à un morceau de pain, dans le rêve qu'on a de ce morceau de pain, il y a tout. Il y a la couleur, il y a la matière, il y a même l'odeur du pain, ce qu'il n'y a jamais dans une peinture. Et pourtant, c'est un rêve. On ne peut pas dire qu'un rêve soit vraiment réaliste.
Bien sûr.
Je pense qu'il y a là un malentendu général à notre époque qui considère que la peinture figurative peut être réaliste et la peinture abstraite ne l'est pas. Je pense personnellement que c'est le contraire. Remarquez le mot d'abstrait, il faut bien insister là-dessus, c'est un mauvais mot, c'est un mauvais nom, c'est une étiquette ridicule, ça ne correspond à rien. Il y a un certain nombre de peintres qui se sont baptisés non figuratifs. C'est aussi une mauvaise définition. Une définition par une négation comme ça, c'est pas agréable, c'est pas bien. Moi, ça me plaît pas en tout cas. Mais il y a d'autres qui ont voulu appeler leur peinture une peinture concrète. pour mettre l'accent sur les qualités justement concrètes de l'œuvre d'art. Tout ça, ce sont des titres, des étiquettes, ça n'a aucune importance au fond. Il faut savoir ce qu'il y a derrière ce nom-là. Le mot d'abstrait est particulièrement mauvais parce qu'il a un sens très précis en philosophie, qui est totalement différent de celui qu'il a en peinture. Mais enfin, les choses sont ainsi, on peut rien contre ça. Oui, mais cette démarche d'esprit, en tout cas, est très répandue de nos jours. Il y a effectivement des peintres abstraits au Japon, il y a des peintres abstraits en Amérique, en Scandinavie, en Italie, enfin...
Et il y en a toujours eu.
Partout.
Pas simplement à notre époque.
Oui, mais au Japon, il y a une chose qui est la calligraphie, et qui est un art considéré là-bas comme un art majeur, non pas du tout comme une sorte d'art décoratif mineur, mais qui est considéré au même titre que la peinture comme un grand art. Eh bien, la calligraphie, évidemment, a permis peut-être aux Japonais d'aborder la peinture abstraite peut-être plus rapidement que certains Occidentaux ne l'ont fait, parce que leurs yeux étaient habitués, je pense, aux qualités physionomiques des traces peintes, à ce qui fait qu'un coup de pinceau peut être magnifique ou même génial, et que le même coup de pinceau qui pour un occidental est semblable n'est rien du tout. Et ça, les spécialistes de calligraphie savent faire la différence. Certains dessins de bonheur, par exemple, où le mot bonheur est écrit, où l'idéogramme qui signifie bonheur est inscrit, est tracé sur le papier, eh bien, certains dessins de bonheur sont considérés comme le porte-bonheur ridicule, sans aucune valeur, et le même signe calligraphié par un maître est considéré sur le même plan que celui sur lequel nous mettons les chefs-d'œuvre de la peinture. Alors, peut-être est-ce cette habitude-là de l'œil, cette ouverture de la sensibilité aux qualités physionomiques des formes, qui a fait que les Orientaux, le Japon notamment, a abordé la peinture abstraite très très vite. Mais lorsque on regarde un morceau de papier sur lequel sont tracés une série de signes, si, comme moi par exemple, je ne connais pas la signification des idéogrammes, je ne sais pas lire le chinois, mais je ne juge de ça que d'une manière extrêmement extérieure. Je vois les qualités de peinture, je sais la répartition des valeurs, j'en juge d'une manière très extérieure. Je me rends compte de l'impossibilité que j'ai d'apprécier la calligraphie comme normalement un spécialiste devrait l'apprécier. Lorsque j'étais au Japon, j'ai été invité par un certain nombre de calligraphes qui s'intéressaient à mon travail d'ailleurs depuis très longtemps. J'étais assez surpris de ça. On m'a soumis un certain nombre de calligraphies traditionnelles. Et évidemment, on m'a demandé ce que j'aimais là-dedans. Je leur ai dit, je ne connais rien à la calligraphie, mais tout de même, je pense que pour moi, si j'avais à remporter 3 calligraphies sur cette dizaine que vous me montrez, je prendrais celle-ci et celle-là. Et il se trouvait que c'était des choses importantes qu'ils considéraient comme très 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 bien. Mais je me suis tout de suite expliqué avec eux, je leur ai dit, j'ai l'impression que je passe à côté de l'essentiel. En effet, lorsque vous regardez cette calligraphie, vous savez lire, par conséquent, vous comparez ce que vous avez sous les yeux avec la structure traditionnelle du signe qui vous permet de lire. Vous comparez ce que vous avez sous les yeux avec le son qui s'accroche à cette structure que vous savez lire, et le sens. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue à 4 termes. Le premier terme est l'invention du calligraphe que vous avez sous les yeux sur la structure traditionnelle du signe, deuxième terme, et puis le son et le sens, n'est-ce pas ? Ce dialogue, au fond, c'est un peu un dialogue comparable à celui que la peinture figurative occidentale entretient avec les apparences des objets. Apparences des objets, d'ailleurs, qui ne sont pas la réalité, parce que ce n'est qu'un des éléments de la réalité. Je ne pense pas qu'une apparence d'un objet, ce soit la réalité. Un objet peut avoir une infinité d'apparences. Les cubistes avaient essayé de restituer plusieurs apparences d'un objet. Mais, enfin, même plusieurs apparences d'un objet, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est les rapports que nous entretenons avec le monde. Et pourquoi ces rapports-là, d'ailleurs, ceci-là, je défends la peinture abstraite en ce moment, pourquoi ces rapports-là s'exprimeraient-ils d'une manière figurative en passant par l'intermédiaire d'une apparence d'un objet. Laquelle apparence n'est pas l'objet? Lequel objet n'est pas la réalité? Pour en revenir à la calligraphie, je leur ai exprimé ce que je pensais de la calligraphie, c'est une sorte de dialogue à quatre termes, mais ils avaient l'air tout à fait contents, très très heureux. On m'a soumis ensuite d'autres calligraphies qui étaient faites par des calligraphes qui, à force d'interpréter ou de déformer ou d'inventer sur la structure traditionnelle, étaient arrivés à abandonner totalement cette structure à tel point que personne ne pouvait les lire. C'était des calligraphes bouddhistes zen. On m'a montré ces choses-là. Là aussi, j'ai choisi des choses qui leur paraissaient à eux aussi bonnes. Et seulement, chose devenue amusante, c'est que j'ai demandé à un professeur japonais expert en calligraphie de lire. Il m'a dit « je ne peux plus lire ». Alors, à ce moment-là, j'ai déclaré d'un coup « ce n'est plus de la calligraphie ». Ce qui, d'ailleurs, m'a valu immédiatement l'estime de tous les calligraphes traditionnels et une certaine hostilité de la part des autres. Ce n'était plus de la calligraphie, c'était autre chose. C'était devenu une sorte de peinture abstraite en blanc et noir. Et au fond, cette aventure des calligraphes japonais de Kyoto m'a paru assez comparable et voisine de la peinture contemporaine qui est passée de la figuration à la non-figuration et finalement de la non-figuration à un autre mode de rapport que les hommes peuvent avoir avec le monde qui est la peinture abstraite.
Est-ce que vous avez l'impression que les événements de votre vie jouent un grand rôle dans la création, ou ont joué un grand rôle? On a cité beaucoup la guerre, enfin.
Oui, on a cité la guerre, bien sûr, mais ça, c'est pour tout le monde, c'est vrai, ça a compté, la guerre. Je dois vous dire que je n'y pense pas. Tout ça, ça fait partie d'un arrière-plan, bien sûr, on a cité la guerre. Là, ce sont des choses importantes, bien entendu, elles font partie de notre vie. On devrait pouvoir les retrouver à travers la peinture, mais je pense que ce n'est pas ça. C'est une mauvaise démarche que de penser à ça. La guerre, ou les joies ou les malheurs qu'un homme peut avoir, l'art s'en nourrit, peut-être, probablement même. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le linge sale de l'artiste, au fond. Je ne crois pas qu'à travers la peinture, il faille retrouver la trace de l'époque, c'est sûr. Mais une peinture qui ne serait que le témoignage de l'époque, ce n'est pas une œuvre d'art, à mon avis. Ce n'est pas pour ça qu'elle est une œuvre d'art, en tout cas.
Sûrement. Donc, au fond, ce que l'on dit, c'est normal si on se met dans la peau des critiques, des gens qui jugent, qui regardent et tout.
Bien sûr.
C'est normal, ils essaient de...
Oui, mais remarquez, ça, c'est déjà plus une démarche de sociologue, de gens qui s'intéressent à l'époque, de gens qui s'intéressent à la peinture. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la peinture, on s'intéresse, ou à la poésie, on s'intéresse à l'émotion que l'on a, à la manière que l'on a de sentir les choses différemment après avoir lu un poème ou après avoir vu une toile, c'est ça qui compte. À travers une peinture, on cherche soit la psychologie de l'artiste, on fait un travail de psychologue. Quand on cherche le conditionnement ou enfin les éléments d'une époque qui ont poussé le peintre à faire telle ou telle chose, on ne regarde plus la peinture. On essaie à travers la peinture de retrouver l'époque. À ce moment-là, on n'est plus en situation d'amateur d'art, on est en situation de sociologue.
Oui. Puis d'un autre côté, on a pris l'habitude beaucoup d'essayer d'expliquer les choses.
Enfin.
Alors dès qu'on se trouve devant une toile abstraite, la tentation est encore plus grande.
Oui. Ce qui est amusant aussi, c'est de voir comment on explique la peinture figurative. Parce qu'on explique la peinture figurative en général en racontant des histoires sur ce que représente la peinture. Quand on voit le sacre de Napoléon, on vous explique comment Napoléon se couronne. Ou... Enfin, on vous raconte des tas d'histoires qui n'ont finalement rien à voir avec la peinture. Je me suis amusé à faire ça. Une fois, j'étais au Louvre et j'ai vu des gens qui font visiter les collections aux touristes. Et j'étais absolument atterré parce qu'on était devant des tableaux et on aurait pu exactement, sans rien changer à ce qu'ils disaient, remplacer le tableau par une scène de théâtre. Lorsqu'on est devant une nature morte, peinte, on peut très bien, avec les commentaires habituels, n'exagérons pas, enfin de moins en moins habituels, mais encore habituels, que l'on fait sur la peinture, remplacer la nature morte peinte par une vraie table, par un vrai compotier, par des pommes, et cela marcherait tout aussi bien. On vous parlerait de la vie des Hollandais, des bourgeois hollandais, on pourrait vous raconter exactement la même histoire, on pourrait même vous parler du style du compotier ou du style de la table, on n'effleurerait pas, mais un seul instant, ce qu'est la réalité de l'œuvre peinte. Et pour la peinture figurative, en général, les explications qu'on donne sont d'aussi mauvaises explications que celles qu'on donne sur la peinture abstraite. Quand on est devant une peinture abstraite, si on se met à parler ou bien des grues, ou bien de la vie de la machine de nos jours, ou bien ça me paraît la même démarche ridicule. Avec même encore plus ridicule, parce que si un peintre qui travaille, comme je le fais par exemple, avec des grandes touches noires, ou avait voulu peindre des grues ou des forêts de pylônes, eh bien, il se serait pris autrement quand même. Ce que je vous disais tout à l'heure à propos de cette explication que l'on fait quelquefois des poèmes, où on commence par dire « le poète a voulu dire par là ». Le peintre a voulu dire par là, comme si le poète et le peintre étaient des demeurés qui ne pouvaient pas s'exprimer autrement que par la peinture ou la poésie. Si on choisit la peinture ou la poésie comme mode d'expression, c'est quand même pour des raisons qui dépassent celles de l'explication littérale et du langage littéral.
Bien sûr. Alors là, on aborde alors la question de l'artiste dans notre époque. Comment faire approcher l'œuvre ? Et que pensez-vous de la façon dont, à l'heure actuelle, on fait approcher les œuvres ?
Ce qu'il y a de sûr, ce que je sais, c'est qu'il existe une chose qui paraîtrait au départ un instrument extrêmement utile de culture, qui est l'imprimerie, la photographie, la reproduction, et que tout cela est catastrophique. Catastrophique d'abord parce que ce sont toujours des réductions, dans tous les sens du terme d'ailleurs. On réduit un tableau de 2 mètres ou une espèce de bout de papier glacé de 10 cm. Un tableau, c'est un volume, c'est un objet. Il y a une épaisseur, il y a un châssis, de la toile. C'est quelque chose qu'on peut toucher comme ça. Et ça devient brusquement une sorte de pièce mécanique qui est l'empreinte d'un cliché, avec les bords franchement coupés d'une manière horrifiante quand on pense au côté vivant de la toile et du bois, d'une part. D'autre part, on dépose cette reproduction, cette empreinte mécanique d'un cliché sur un papier avec des marges blanches d'un blanc qui n'a jamais existé dans la vérité, parce que lorsqu'on pose même un tableau sur un mur blanc, il y a toujours l'ombre du tableau, il y a toujours une espèce de variation du gris, alors que là, il y a une espèce de blanc absolument abstrait et effrayant. Et on ne s'en aperçoit pas. Les gens prennent ça comme la vraie reproduction d'un tableau. Cet instrument de culture devient un instrument de déformation et on finit par, je n'exagère absolument pas, on finit par déformer les yeux des gens. Je ne vous parle pas de l'interprétation des couleurs. Je ne vous parle pas d'interprétation des couleurs parce que à partir du moment où on réduit une surface, la couleur change. La qualité même de la couleur est fonction de sa quantité. Ça, ce sont des choses que l'on sait depuis longtemps. Les Matisse et Gauguin même l'avaient découvert, et on le sait très bien. Et le sachant, on réduit une surface de couleur de, disons, 1 mètre carré en 2 centimètres carrés. C'est parfaitement ridicule. Alors, pour compenser, ça je connais un professionnel, un éditeur, qui a conscience de ces problèmes-là et qui, pour compenser cette réduction, change la qualité de sa couleur. Alors, un gris-rouge de 1 mètre carré devient, chez lui, un rouge intense de 2 cm carrés. Il essaie de suppléer par la qualité à la quantité. Enfin, tout ça, c'est l'aberration la plus complète. C'est absolument affolant. Et ce qui est affolant, c'est que les gens qui voient ces reproductions, étant donné qu'ils ont vu la reproduction, n'éprouvent même plus le besoin d'être en contact avec l'œuvre. Alors qu'en réalité, une reproduction, ça devrait être quelque chose qui donne envie d'aller voir l'œuvre vraie. Mais pas du tout. On se contente de ça, et à tel point d'ailleurs que l'on voit même des jeunes peintres, tout jeunes peintres, qui n'ont jamais vu de musée ou qui n'ont jamais pu voir de musée, qui travaillent en province, par exemple, avec des palettes absolument déformées par cette habitude de la reproduction en couleur.
Donc au fond, si vous aviez un conseil à donner aux gens, vous leur diriez d'aller voir les toiles.
Ah, absolument. Ne regardez pas les reproductions, ou regardez les reproductions comme un mensonge. Toujours, comme un mensonge.
Impromptu de vacances, c'était une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Pierre Soulages. Assistant Jean-Marc Siafarikas, collaboration technique Jean-Paul Herbert.
Cette émission a été diffusée la première fois le 7 septembre 1965 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.